l'appellation printemps arabe suggère que toutes les promesses, voire tous les rêves sont permis. Or, les changements n'arrivent pas d'un jour à l'autre. Il y a souvent des attentes déçues et les personnes qui se sont battues n'avaient pas de programme bien défini. Les forces politiques, à l'exception de quelques-unes, s'organisent maintenant. Des nouvelles élites politiques sont en train d'émerger. Tout ça prend beaucoup de temps. Alors, on est dans l'incertitude. Certains sont dans l'inquiétude, que je comprends, que je respecte. Mais moi, je préfère avoir un regard sur les incertitudes, moins marqué par la peur, qui est souvent irrationnelle et qui accélère l'avènement de ce dont on a peur.
Mais est-ce que les printemps arabes peuvent aggraver la situation des chrétiens? Est-ce que les chrétiens ont encore un avenir dans cette région du monde?
Vous savez, ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on entend des voix des amis des chrétiens du monde arabe, des amis occidentaux, qui annoncent l'éradication définitive de la présence chrétienne dans cette partie du monde. Et je crois que tout cela nous a fait du tort parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commencent à croire que l'avenir n'est pas à eux, qui se préparent soit à partir, soit à se replier sur eux-mêmes au point où, sans le vouloir, ou peut-être même sans le savoir, ils réalisent ce dont ils ont peur. Ils répondent à la marginalisation par l'auto-marginalisation. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un islamisme intolérant va gouverner le monde arabe. Il est évident que les organisations islamiques ou islamistes sont organisées, sont mieux préparées que d'autres organisations politiques. Cela est certainement le cas en Tunisie, il l'est peut-être aussi en Égypte, sont mieux préparées à gagner les élections, si vous voulez, mais à elles seules, ces forces ne sont pas capables de gouverner, ne seront pas capables de gouverner. C'est des forces qui devraient chercher le compromis avec d'autres. Et je crois que tout dépendra, pour ce qui concerne les chrétiens, de leur capacité à se positionner comme acteurs politiques avec les autres dans ce processus de reconstruction démocratique.
Reste que quand on voit la multiplication de partis qui se réclament de l'islam, quand on voit qu'on parle de charia tout naturellement, comme si c'était inévitable, on a le sentiment que l'avenir des nations arabes passe aussi par l'islam, s'identifie avec l'islam.
Il y a dans cette montée de l'islamisme quelque chose d'identitaire. Ce n'est pas un projet politique construit. Les islamistes changent, ils sont en train de changer. Ils vont changer inévitablement. Je ne pense pas qu'avec des slogans relatifs à l'application immédiate et totale de la charia, que les frères musulmans en Égypte ou à Mahda de Tunisie vont résoudre tous les problèmes économiques, sociaux et politiques de leur pays. Même si à court terme, il y a une sorte de force de cet appel à l'application de la charia. Moi, je pense que dans les années qui viendront, les islamistes eux-mêmes seront acculés à revoir leur projet politique à la lumière des problèmes qu'ils seront appelés à résoudre. Et puis, n'oublions pas qu'au sein de la dite mouvance islamique, il y a un débat sur toutes ces questions. Je pense plus particulièrement en Égypte, où il y a un débat sur l'État. S'agirait-il d'un État, bien entendu, on n'utilise jamais le mot laïque dans ce pays comme l'Égypte, mais on utilise la notion de l'État civil ou de l'État constitutionnel. Il y a un document d'Al-Azhar, qui est quand même l'institution la plus légitime et la plus crédible en islam sunnite, en tout cas en Égypte. C'est une institution qui jouit d'une très grande crédibilité. Et on produit un texte où il est question seulement d'un État qui s'inspire des principes généraux de la charia, mais qui donne aux assemblées élues par le peuple le droit de légiférer. Donc la notion de souveraineté du peuple, par opposition à cette vision archaïque où seuls les textes religieux sont fondateurs de la loi positive, c'est une nouveauté dans le monde musulman. Et je crois que les chrétiens doivent tenir compte.
Mais est-ce que l'Occident a le devoir de prendre publiquement, ouvertement la défense des chrétiens, ou est-ce que cela risque de les marginaliser, de les isoler encore plus?
Pour ce qui concerne concerne les chrétiens, je ne pense pas que dans le monde moderne, enfin dans les 30 dernières années, l'Occident n'a ni voulu ni pu intervenir pour soutenir les chrétiens ou défendre les droits des chrétiens quand ils sont menacés. Et quand il le fait, quand certaines personnalités politiques le font, cela est souvent contre-productif. Donc l'histoire du soutien occidental aux chrétiens d'Orient, c'est plus un mythe qu'une réalité.
D'une manière plus générale, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que l'Occident a le droit et le devoir d'intervenir dans les affaires du monde arabe? On s'est posé la question au sujet de la Libye, on se pose la question au sujet de la Syrie.
Le droit international n'est pas encore clair, je dirais, sur la légalité d'une intervention. Moi, je suis de ceux qui font la distinction entre l'obligation de protéger la population civile qui est menacée par des régimes dictatoriaux et sanguinaires et celle d'intervenir pour changer un régime. Le cas de la Libye est un cas d'école parce qu'au début, c'était une intervention dans le but de protéger la population civile qui était effectivement menacée par la folie de Kadhafi et de son armée. Mais plus l'intervention se déroulait, plus elle a pratiquement contribué au renversement de ce régime. Donc elle a été un peu au-delà de ses objectifs.
En Syrie, on parle de 3500 morts et donc la question est aussi posée. Hein. On peut se demander, est-ce qu'il faut intervenir dans ces cas-là?
Oui, vous savez, l'opposition syrienne et les jeunes qui sont dans les rues, qu'on tire dessus, la population civile dans les villes qui sont données ne font pas appel à une intervention étrangère. C'est le régime qui veut discréditer l'opposition en l'accusant de faire appel aux puissances étrangères. En réalité, tout ce qu'il demande, c'est des mécanismes d'observation qui permettent d'assurer une plus grande protection de la population civile. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu dans les textes de l'opposition une référence à l'intervention.